Bonjour, je suis Richard Murphy et aujourd'hui nous allons parler d'un grand concept en économie politique. Tom est avec moi et il a la question. Merci Richard. La question du jour est donc, qu'est-ce que le PIB et qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Vous voulez donc commencer par les grandes questions, hein? Cela semble être l'une des plus grandes questions que l'on puisse se poser en économie politique, car le PIB ou produit intérieur brut, pour lui donner son nom complet, est une mesure de notre revenu national. Le concept de PIB a été créé dans les années 1930 par un homme appelé Simon Cooney et il a vu à l'époque tous les problèmes liés à la mesure qu'il avait créée. Mais nos politiciens les ont ignorés depuis. En réalité, il existe trois façons de calculer le PIB. On les appelle l'approche par la production, l'approche par les revenus et l'approche par les dépenses. Sans surprise, chacune d'elles donne une réponse différente. Et il revient à nos agences nationales de statistiques de les réconcilier en un seul chiffre. Mais en réalité, celle que la plupart des gens examinent est ce qu'on appelle l'approche par les dépenses. Et l'approche des dépenses additionne nos dépenses totales de consommation finale au Royaume-Uni. La somme des investissements des entreprises et la somme des dépenses publiques, hors transfert tels que les pensions et les prestations sociales, qui sont ensuite reflétées dans les dépenses de consommation et les exportations nettes du pays, qui correspondent simplement aux exportations moins les importations. Cela signifie que nous obtenons un chiffre très élevé qui est censé être notre revenu national. Le problème est que les dépenses en question ne reflètent pas vraiment les revenus. Par exemple, dans la méthode des dépenses que je viens d'expliquer, l'investissement total est inclus. Mais les avantages de cet investissement se manifestent au cours des années à venir. Vous n'obtenez pas les avantages la première année de l'investissement. Par définition, l'investissement est réalisé de manière à obtenir des avantages sur une période donnée. Mais le PIB suppose que tous ces avantages arrivent l'année où les dépenses sont engagées, ce qui est absurde. Ce n'est pas notre revenu pour l'année. Dans le même temps, et c'est assez bizarre, nous ignorons les avantages de cette année des dépenses d'investissement qui ont été effectuées les années précédentes. Par conséquent, le chiffre du revenu national n'a rien à voir avec le chiffre du revenu que nous pourrions obtenir, par exemple, dans un ensemble de comptes financiers produits par une entreprise. Ce fait pourrait à lui seul expliquer pourquoi tant de politiciens familiers de la comptabilité financière sont si déroutés par la notion de PIB. Les deux ne se ressemblent pas. Et puis il y a d'autres problèmes. Le PIB, par exemple, ne tient compte de la valeur de rien. Si une marée noire majeure entraînait des dépenses massives au Royaume-Uni pour une opération de nettoyage, cela n'ajouterait rien à notre bien-être, mais cela augmenterait considérablement le PIB. De même, si un grand nombre de personnes commençaient à divorcer au Royaume-Uni, cela n'améliorerait pas le bien-être humain, car cela reflèterait en fait une augmentation du stress humain. Mais les dépenses en avocats et tous les coûts liés à la séparation des ménages augmenteraient le PIB. Et je pense que celui-ci est vraiment important. Le coût du traitement des maladies évitables est considéré comme faisant partie de notre revenu national alors qu'il aurait été tellement mieux si les maladies en question avaient été évitées. En d'autres termes, le PIB ne reflète en aucune façon une augmentation de notre bien-être. Il y a tout simplement une déconnexion totale entre les deux. Et en même temps, le PIB ne tient absolument pas compte de la manière dont les revenus du pays sont distribués. Ainsi, par exemple, si l'intégralité des revenus financiers du Royaume-Uni appartenait à une seule personne et que tous les autres devaient vivre dans la misère absolue au sein de l'économie, en troquant pour participer à tout commerce qu'ils entreprennent, cela se reflèterait toujours comme un chiffre unique pour le PIB. Le revenu de cette seule personne serait alors le PIB du pays. Et s'il augmentait, nos politiciens qui pensent que la croissance du PIB est la seule chose qui compte au Royaume-Uni s'en réjouiraient. Mais en pratique, bien sûr, c'est absurde car tous les autres seront exclus de cet avantage. Cela n'a donc aucun sens. Nous devons tenir compte de la distribution lorsque nous examinons si la croissance du PIB a une quelconque importance. Et nous pourrions le faire très simplement. Nous pourrions simplement nous demander si nous voulons prendre en compte le PIB par habitant ou le PIB total. Mais nous ne le faisons pas. Et la conséquence est que le PIB est ce que j'aime appeler de la merde. Ou en d'autres termes, une approximation complètement fausse de la vérité. Alors que pourrions-nous faire à la place? Nous pourrions examiner les chiffres du PIB par habitant. Comme je viens de le dire, le PIB par personne. En d'autres termes, cela nous indiquerait dans quelle mesure nous nous sommes améliorés suite à un changement survenu au cours d'une période. Nous pourrions ensuite ajuster les changements dans la répartition des revenus résultant des investissements. Et cela aurait du sens. Nous pourrions également tenir compte des changements dans la répartition des revenus de sorte que si nous répartissons les revenus de manière plus équitable, nous pourrions refléter ce fait dans les données par habitant et montrer que les plus aisés n'ont peut-être pas gagné autant que les plus défavorisés, etc. Encore une fois, cela nous fournirait des informations vraiment précieuses pour les politiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et enfin, nous pourrions retirer du calcul du PIB ou même les traiter comme des revenus négatifs les éléments qui causent du tort. Et j'en ai déjà expliqué certains. Autrement dit, Tom, nous pourrions mieux faire, mais nous ne le faisons pas. Et il est temps que les politiciens en prennent note. J'espère que cela répond à la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons j'aime et abonnez-vous, car il nous aide réellement à faire passer le message sur YouTube. Tout aussi important, pourriez-vous jeter un œil à la section sous cette vidéo où il y a plus d'informations? Vous y trouverez un lien vers mon blog. Et si vous suivez ce lien, pour le lien spécifique vers l'article de blog lié à cette vidéo, vous trouverez une transcription de cette vidéo et de nombreux autres documents connexes, ainsi qu'une invite GPT de chat que vous pouvez utiliser pour écrire une lettre à votre député sur le contenu de cette vidéo, ce qui fera de vous un militant, ce qui serait une excellente chose à faire. Enfin, si vous appréciez le travail que nous faisons, pouvez-vous envisager de nous faire un don? Si vous le souhaitez, il y a un lien ci-dessous où vous pouvez en trouver un sur mon blog où il y a un bouton Ko-fi disant « S'il vous plaît, offrez-moi un café ». Merci beaucoup et à bientôt.